Du mot à la note, une émission présentée par Alain Nice.
Aujourd'hui, les Carmina Burana. Amis de la radio, bonjour. Présenter des œuvres littéraires qui ont fait l'objet d'adaptations musicales, voilà ce que Du mot à la note se propose habituellement comme objectif, comme vous savez. Aujourd'hui, toutefois, il serait plus approprié de parler d'une réadaptation, à savoir d'une réécriture de 24 pièces musicales par le compositeur allemand Karl Orff en 1935 et 1936. Ces 24 pièces furent en effet primitivement élaborées à partir de textes écrits sous la forme de poèmes. Orff a repris ces poèmes en ignorant, délibérément ou non, l'écriture musicale qu'on leur avait associée à l'origine. Il s'agit de cette imposante collection de textes connue sous le nom de Carmina Burana depuis 1847, lorsque, après les avoir découverts en Bavière en 1803 dans le couvent bénédictin de Boyern, le bibliothécaire Johann Andreas Schmeller les rendit accessibles au public en les éditant. Carmina Burana, que signifient ces mots latins ? Le Carmen, au singulier, se laisse difficilement traduire avec exactitude au moyen d'un seul mot. C'est un chant, ou une pièce de vers, ou les deux ensemble. Mais un Carmen enveloppe aussi l'idée d'une formule religieuse, voire de paroles magiques. Et c'est un peu tout cela que renferment ces quelques 300 textes des XIIe et XIIIe siècles, dont beaucoup sont rédigés en un latin médiéval souvent dégradé par rapport à la langue latine littéraire, d'autres en moyen haut allemand et en ancien français. Ainsi, Carmina Burana pourrait signifier les chants ou bien les poèmes chantés de Boyern, si ces traductions ne présentaient pas l'inconvénient d'occulter la richesse du Carmen latin. Elles retiennent cependant, et à juste titre, l'idée de musicalité, car le manuscrit, enluminé, dénommé Codex Buranus 179, qui rassemble tous ces poèmes et qu'on a trouvé dans le couvent bavarois de Boyern, en accompagne quelques-uns d'indications musicales qui laissent penser que c'est tout le corpus qu'on destinait au chant. On remarque aussi que, parfois, plusieurs versions musicales sont proposées pour un seul texte. Et aussi, il arrive que le codex précise qu'une pièce musicale associée à un poème puisse se prendre comme une pièce purement instrumentale. Qu'on ne s'abuse pas, on ne peut parler de partition, il est bien trop tôt. La musique s'écrit à cette époque sous la forme de neume. Le mot neume dérive du pneuma grec, le souffle, l'esprit, altéré en pneuma, le signe. Le neume transcrit une formule à la fois mélodique et rythmique appliquée à une syllabe du texte à chanter. Une même syllabe peut recevoir plusieurs neumes. Et chaque type de neume correspond à une figure mélodique, et surtout rythmique particulière. Par exemple, le neume appelé cliwis, qui se présente comme un V à l'envers, traduit la succession de deux notes, la première plus grave que la seconde. Si on lui ajoute une barre oblique comme si l'on amorçait un autre V renversé, on obtient le porrectus, qui signale un groupe de trois notes, successivement graves, aiguë et grave. Ces indications, toutes schématiques soient-elles, suffisent à des musicologues d'aujourd'hui spécialisés dans la couleur des mélodies médiévales, la variété de leur rythme et l'instrumentation alors en usage, pour proposer une restitution de ces pièces musicales. Écoutons-en un échantillon délesté du texte qui pourrait lui être associé.
Thank you.
Wirent prata iemata, en français, verdissent les prairies au sortir de l'hiver. C'est le 151e chant du Codex Buranus, ce manuscrit dont on date la réalisation entre 1225 et 1250, peut-être dans le Tyrol, plus vraisemblablement en Carinthie, au sud de l'Autriche d'aujourd'hui. On doit cette restitution musicale d'un chant sur le retour du printemps au Clemensic Consort, dirigé par le musicologue autrichien René Clemensic. Malheureusement, il serait vain d'espérer la renaissance de l'ensemble des Carmina Burana sur le modèle de ce que nous venons d'entendre. Le codex ne livre qu'une infime quantité de poèmes accompagnés d'indications musicales. Une telle lacune n'a cependant nullement embarrassé Karl Orff lorsqu'il s'est attaché à cette cantate scénique désormais universellement connue qu'il a intitulée « Carmina Burana, chant profane pour chanteurs, solistes et chœurs, avec accompagnement instrumental et images magiques ». L'adaptation qu'il a faite du 196e chant, dont le Codex Buranus livre pourtant une notation musicale au moyen de neumes, témoigne de son désir de création et non pas d'une restitution fidèle à l'original. Avant d'écouter la réécriture de Karl Orff, je propose de nous pencher d'abord sur l'interprétation qu'en a faite René Clemensic, qui visait, lui, comme une renaissance de ce que l'on n'entend plus. Je livre ici la traduction de ce poème auquel le premier vers peut servir de titre, « In taberna quando sumus », soit en français « quand nous sommes dans la taverne ». On se souviendra néanmoins que si traduire un poème en livre le sens, c'est au prix de la perte du jeu des consonances et du rythme des vers. Traduire, c'est toujours trahir en quelque manière. Mais voilà. Assis dans la taverne, nous ne parlons point de la tombe, mais nous nous donnons au jeu qui toujours nous échauffe. Ce qu'il advient dans la taverne quand l'écu fait jaillir le vin vaut la peine d'être entendu. Écoutez ceci. Les uns jouent, les autres boivent, d'autres se dévergondent, mais au jeu, plus d'un se voit dépouillé et plus d'un gagne un habit. Certains se drapent dans des sacs, aucun ne craint la mort, non, c'est pour Bacchus que l'on agite les dés. Premier point, celui qui paye l'écho. C'est le peuple dissolu qui le boit, une fois pour les emprisonnés, trois fois pour ceux qui sont en vie, quatre fois pour la chrétienté, cinq fois pour les trépassés dans le Seigneur, six fois pour les sœurs libertines, sept fois pour les voleurs, huit fois pour les frères égarés, neuf fois pour les moines dispersés, dix fois pour les marins, onze fois pour ceux qui vivent dans la discorde, douze fois pour ceux qui font pénitence, treize fois pour ceux qui voyagent. À la santé du pape, comme à celle du roi, tous boivent sans retenue. Bois la maîtresse, bois le maître, bois le chevalier, bois le curé, bois celui-ci, bois celui-là, bois le valet, bois la servante. Bois le leste, bois le paresseux, bois le blond, bois le brun, bois le sédentaire, bois le voyageur, bois le fou, bois le sage, bois le pauvre, bois le malade, bois le banni, bois l'inconnu, bois l'enfant, bois le chauve, boivent l'évêque et le doyen, bois la sœur, bois le frère, bois l'aïeul, bois la mère, bois celle-là, bois celui-là, boivent cent, boivent mille. 600 ducats serait trop peu si tous boivent sans mesure. Mais sur notre joviale boisson tombent les injures de tous les peuples. Elle nous diminue. Que puissent se dépraver ceux qui nous injurient et ne pas être inscrits dans le livre de justice.
Yeah. bambini, ex ac vivunt liberti.
Se belli non mancantivis, cose qui un tempo finis, aperta cruciare scolti.
Cui in cui es profiteribus defuncti.
Et si es prosaribus vanis,
et si es prominitibus infanis.
Noi es pro monachis dispersi.
Dies est pro navegantibus.
Undeci est pro discordantibus.
Quod est pro militentibus.
Tredeci est pro interagenti.
Ambro, ambam, ambro, regentibus, omnes sine lege.
Taberna quando sumus, quand nous sommes à la taverne. Le 196e chant du Codex Buranus, interprété par le Clemensic Consort. On aura remarqué qu'on y parodie sans vergogne le prêtre qui dit la messe. C'est que, parmi les auteurs de ces poèmes, on trouve en assez grand nombre des Vagans et des Goliards. Des Vagans, c'est-à-dire des clercs plus ou moins en rupture avec l'Église, des escoliers aussi, à savoir des étudiants, ceux-là souvent peu assidus à l'étude. Quant aux Goliards, ils devaient cette dénomination soit au personnage biblique Goliath, longtemps considéré comme un emblème du vice, soit au mot latin gula, l'appétit, la gourmandise. Et c'est bien un chant de goula, un chant de gueule, que nous venons d'entendre, pour constituer la quatrième partie de sa cantate Carmina Burana. Dans le premier que nous allons entendre, on nous dit que l'homme s'irrite de se montrer plus avide de plaisir que de vertu. Le deuxième fait parler le cygne que la rôtissoire du cuisinier fait tourner devant les dents aiguisées et impatientes de ceux qui le mangeront. Il se souvient avec nostalgie du temps de sa beauté lorsqu'il nageait sur son lac. Le troisième donne la parole à un abbé du pays de Cocagne qui gouverne son couvent avec ses compagnons de beuverie. Quant au quatrième, in taberna quando sumus, nous le connaissons déjà. Écoutons ces quatre poèmes dans l'unité que leur a conféré Karl Orff en les rassemblant sous le titre « In taberna, dans la taverne ».
Est transiterios ire vehementi in amaritudine loquor miementi factus de materia sine seramenti similis sunt olio piccolo dventi cum sineri proprio pira sapienti supra petra ponere sine fondamenti stoldo sege comparare fluvio lamenti supriorem tramite nunca permanenti.
Thank you. est amaris, dociar que fais, qui te tenus imperat, labores suavis, que non comit pardibus, habitar knavis.
Thank you. summabas, 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 totaniensis. Et consilio meves cumibulis, et insecta deci voluntas miest, et qui maname que sierit in taberna post vesperam nudus rece crietur. Et sic denudatus est clamabit. Sors turpissima! Nostre vite gaudea, abstulisti omnia!
C'était « In taberna, dans la taverne », quatrième partie de la cantate « Carmina Burana » de Karl Orff. Cette partie se constitue de quatre « Carmina » tirées du Codex Buranus. Les interprètes sont les choristes et musiciens du Salzburger Mozarteum Chorus und Orchestra, dirigé par Kurt Prestel. Voilà comment Orff témoigne de sa rencontre en 1934 avec ses textes du Moyen-Âge. « J'eus la chance, dit-il, de me rendre chez un antiquaire de Würzburg qui possédait un recueil dont le titre « Carmina Burana » me fascina immédiatement. » Orff mentionne aussi un dessin sur la page de garde, celui de la roue de la fortune, qui a retenu son attention, ainsi que le poème commençant par le vers « O fortuna »,« O fortune ». L'image et les mots m'ont envahi, se souvient le compositeur. Ces mots liminaires, prometteurs de succès autant que de chute, les voici. Ô fortune, changeante comme la lune, comme elle, sans cesse, tu grandis ou disparais. Détestable vie, un jour par jeu tu malmènes les faibles sens, tu les combles le lendemain. L'indigence, la toute-puissance fonde comme glace devant toi. Lisant un autre poème, Orff découvre sur le même thème, je traduis, « Tu tournes, roue de la fortune, je sombre, je diminue, tu portes un autre au sommet, un peu trop haut, le roi est assis sur l'arête, qu'il se garde de tomber. » Écoutons le prologue de la cantate intitulé « Fortuna Imperatrix Mundi »,« Fortune souveraine du monde ». Qui reprend ces deux poèmes.
Thank you.
à nouveau le chœur et l'orchestre Mozart de Salzbourg sous la direction de Kurt Prestel. Muni de sa découverte, Orff sélectionne 24 poèmes du Codex, puis travaille à sa cantate entre le printemps 1935 et l'été 1936. Le compositeur ne part pas de rien. Alors âgé de 40 ans, il a déjà longtemps fréquenté la monodie des maîtres anciens. Ainsi met-il à profit son expérience d'une adaptation de l'Orfeo de Monteverdi et aussi d'une passion selon Saint-Luc attribuable à Jean-Sébastien Bach. Pour les Carmina Burana, toutefois, Orff étoffe son orchestre d'une importante section de percussions. Il glisse deux pianos, deux chœurs dont un d'enfant et trois solistes principaux, un soprano, un ténor et un baryton. Quant à la structure de l'œuvre, elle se lit aisément, un prologue, que nous venons d'entendre, et un épilogue encadre un triptyque célébrant les beautés du printemps, l'ivresse joyeuse et querelleuse, les jeux de la séduction enfin. Les Carmina Burana de Karl Orff appartiennent aujourd'hui au répertoire choral et orchestral le plus sollicité par les salles de concert. Mais cette quasi-unanimité ne réussit pas à faire oublier l'une de ces controverses qui jettent une ombre sur les réalisations des anciens soutiens du nazisme, militants ou simples collaborateurs passifs. Dans quelle mesure Orff se compromit-il avec l'administration du Troisième Reich ? Eh bien, on a peine à en décider. Il convient de se souvenir d'abord que la réception de la cantate par le régime nazi s'annonce mitigée. L'usage du latin au lieu de l'allemand, un semblant de couleur russe qui rappelle parfois Stravinsky, alors que les idéologues nazis ne considéraient pas les Slaves comme des hommes accomplis, quelques relents de jazz, musique tenue pour dégénérer parce que des Noirs en sont à l'origine, un érotisme présent dans quelques textes, tout cela ne se conformait pas au canon esthétique du national-socialisme. Quelques critiques musicaux éreintèrent la partition sur de tels motifs. Orff reçoit néanmoins l'appui de quelques autres, ainsi que du maire de Francfort, par ailleurs conseiller influent de la Reichsmusikkammer, une institution musicale officielle, et surtout de trois chefs d'orchestre autrichiens prestigieux à partir de 1939, dont le jeune Herbert von Karajan, dont l'engagement nazi a toujours été sous-jacent, et Karl Böhm, qui acceptait tout du Reich, sans toutefois jamais rien encourager. Fort de tous ces soutiens, l'ouvrage de Karl Orff aura pu bénéficier d'une quarantaine de productions sous le Reich. Et finalement, le commentaire de Joseph Goebbels, ministre de la Propagande et de l'Information, écoutant l'œuvre à la radio en septembre 1944, soit 7 ans après sa création, vaut presque un adoubement. Je le cite. « Ces Carmina Burana sont d'une beauté exquise, et si nous pouvions amener Orff à modifier les paroles, sa musique serait certainement très prometteuse. » Que penser de cette approbation mitigée de Goebbels ? La musique des Carmina Burana, revue par Karl Orff, offre-t-elle vraiment à l'auditeur des points de convergence avec l'esthétique nazie ? L'historien allemand Michael Katter a cru les détecter dans leur extrême simplicité mélodique, dans la répétition quasi obsessionnelle des rythmes et des sons, ainsi que dans les allusions thématiques à la Volksmusik d'une Allemagne populaire.
Thank you.
Nous venons d'entendre pour la dernière fois le chœur et l'orchestre Mozart de Salzbourg, dirigé par Kurt Prestel, dans l'interprétation de l'épilogue des Carmina Burana de Karl Orff, qui porte le titre « Blanziflor et Elena », soit « Blanche fleur et Hélène », évocation conjointe des héroïnes du conte du Graal et du mythe grec de la guerre de Troie. Un court poème célébrant la beauté de ces deux femmes laisse ensuite la place à une reprise du O Fortuna du prologue. Constatons, pour conclure, que l'œuvre de Karl Orff mérite mieux qu'une réduction à un échantillon de la propagande hitlérienne. On soulignera d'ailleurs qu'on ne s'est pas posé de questions sur la pureté des intentions du compositeur à propos de ses Catuli Carmina, les chants de Catulle, pourtant créé en 1943, et qui mettait en musique des textes du poète romain Catulle. Prenons chacun des 24 poèmes du Codex Buranus retenus par le compositeur pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des miniatures finement ciselées, dont la place dans un tableau d'ensemble forme comme une continuité organique qui nous parle de ce qui émeut et anime les hommes à toutes les époques, les douceurs de la nature, la sensualité, la beauté, la fête, et, comme ce fut le cas de Orff, peut-être, la crainte de mal choisir sa route. Amis de la radio, au revoir.
C'était Du mot à la note, une émission présentée par Alain Nice.